Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Inutile de vous dire que nous allons passer un bon moment tous ensemble puisque nous évoquons aujourd'hui un label légendaire dont le répertoire fut la bande son de l'Amérique noire des années 60 et 70 puis de la planète tout entière grâce à des artistes comme les Jackson 5 que vous venez d'entendre mais aussi Stevie Wonder, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Diana Ross et tant d'autres. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de Motown et ce en compagnie d'Adam White. Soyez le bienvenu. Welcome.
Good to see you, John.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage imposant de 400 pages, très bien documenté, qui raconte l'épopée Motown de 1959 à nos jours et qui met en relief le rôle éminent d'un personnage central dans cette aventure. C'est évidemment Berry Gordy, le fondateur. Mais vous vous intéressez aussi à l'un de ses bras droits, un certain Barney Hayless. Qui était ce monsieur?
Barney Hayless was one of the backroom believers, as I call them, one of the people who helped Berry build the business. And he was important because he'd had 5 years experience in the industry before he joined Motown. He'd worked at Capitol Records, he'd worked at Warner Brothers Records, and he knew distributors, he knew radio DJs, he understood how the business worked. He'd also worked for an independent distributor himself. So he understood how the mechanism of getting records played and getting paid, most of all, how important that was, how it worked. And that was experience and know-how that he brought to Motown at a very early stage and a very important stage, because in its early days, Motown had a little bit of difficulty getting paid, and if you can't get paid, it's tough to stay in business.
Alors ce Barney Hayless, c'était quelqu'un qui croyait vraiment en ce qu'il faisait, qui a beaucoup aidé Berry Gordy. Il travaillait déjà dans l'industrie du disque 5 ans avant d'entrer chez Motown Records. Il avait travaillé pour Capitol Records, pour Warner. Et puis, il connaissait beaucoup les distributeurs, il connaissait beaucoup le monde de la radio, ce qui était très important à l'époque. Et donc, il était la personne très utile pour permettre justement à une entité comme Motown de décoller, de vivre et surtout de faire en sorte que tout le monde soit payé, que les artistes soient payés. Donc il était vraiment une personne essentielle à la vie de Motown. Le fait que Motown soit dirigé par un noir, Berry Gordy, et par un blanc, Barney Hayless, a forcément contribué au désir de déségrégation des artistes de l'époque. Est-ce que dans la réalité, le quotidien, ce tandem a réussi à apaiser les tensions raciales à travers la musique?
I think they did, but the interesting thing about Berry and the people who worked for him was that he really didn't care what color was your skin, what your background was. He just needed to know you could do the job. And he found in Barney somebody who understood the business, and therefore that was what was important to him. But they actually got on very well as people, as friends. There's a photo of the book, in the book, of Barry and his wife and Barney and his wife, and each of the wives is sitting on the other man's knee in a club in Detroit, and it just gives you an idea of their personal relationship, their friendship, and their closeness, which was also important to the way the business developed and to what each man brought to it.
Je pense qu'il faut rappeler que Berry Gordy ne s'intéressait pas du tout à la couleur de la peau des artistes. Barney était un businessman, donc il venait pour faire du business. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment de faire en sorte que Motown continue à évoluer, grandisse et devienne un label majeur. Et puis, n'oublions jamais que Berry Gordy et Barney Ailes ont vraiment été des amis. Il y a une photo dans le livre qui montre Berry Gordy avec sa femme, Barney Ailes avec sa femme également. Ils sont tous ensemble, les femmes des uns et des autres sont sur les genoux de Berry Gordy et de Barney Ailes dans un club de Détroit. On sent qu'il y a véritablement une amitié profonde entre tous les deux et c'est ce qui a fait que ce couple professionnel fonctionne parfaitement. Votre livre s'ouvre sur les émeutes raciales de Détroit en 1967. Motown existait déjà depuis 8 ans. On peut s'interroger sur l'impact réel de Motown sur les consciences.
That's right. And you know, it was a very traumatic event and time for Detroit and for other American cities that year. It was also a bit of a surprise because Detroit was considered a fairly progressive city with a liberal administration and, you know, a pretty enlightened outlook. But that wasn't enough to stop the riots. And yes, it was a very dramatic time and a tough time for Motown as well, because the riots broke out less than 2 miles from where they were based.
C'était en effet une période très dramatique pour la communauté noire et pour les États-Unis en général. Et pourtant, on a été surpris à l'époque que Détroit explose comme ça à travers des émeutes raciales parce que Détroit était considéré comme une ville plutôt progressiste, ouverte sur le monde. Et tout le monde a été vraiment surpris par ces émeutes raciales qui ont secoué cette ville et d'autres, d'ailleurs aux États-Unis. Et en effet, la musique de Motown ne suffisait pas à calmer les ardeurs. Et ça a été très difficile aussi pour Motown parce que tous ces agissements, tous ces bouleversements avaient lieu à deux pas du siège social de Motown. Donc c'était vraiment une période très particulière. Est-ce que finalement les chansons d'amour chantées par les artistes Motown n'étaient pas un peu trop naïves pour susciter une prise de conscience chez les jeunes de l'époque ?
Well, it was a very different world then, and yes, I suppose you could accuse them of that. But I think it was the sound, above all, that really began to grab people's attention, and it certainly was the case with me. I'd never heard anything like it, and I think that, you know, so much of it was gospel rooted, so there was this incredible energy and drive and soul. They had soul, and even if the songs sometimes were lyrically not as sophisticated as you might like, the overall sound was just extraordinary. It packed a punch, and that's what I think caught people's attention. That's what began the process of change. That's why people love this music.
On peut en effet dire que les chansons étaient un peu naïves dans les années 60, mais ce qui attirait les gens, c'était le son de Motown. Un son bien particulier. Et même moi, dit Adam White, quand j'écoutais cette musique-là, c'est ce qui m'a attiré tout de suite. C'est la sonorité, la tonalité, la musicalité des artistes Motown qui venaient pour la plupart, du gospel avec cette énergie et cette soul music qu'il y avait en eux. Donc en effet, les paroles n'étaient peut-être pas très sophistiquées, mais le son a apporté ce changement aux États-Unis à l'époque. On ne connaissait pas encore cette tonalité-là, ce son-là, et c'est ce qui a fait la différence. Écoutons tout de même le premier numéro 1 du label Motown en 1961, voici The Marvelettes.
Soul fire.
premier grand standard de Motown en 1961, c'était Please Mr. Postman par les Marvelettes. Adam White, dans votre ouvrage, vous nous faites entrer dans la cuisine interne de Motown et vous nous présentez le côté familial et artisanal de ce label au début. C'est ce qui a fait son succès finalement.
Yes, it was, absolutely. The important thing, the family was important, and also Barry built a self-sufficient company. He wanted it to depend on as few people outside the company as he could, which was, Barney was important because he had the relationships with distributors and DJs, but in creatively, Barry wanted to have, you know, we know this, the factory production line, if you like, for everything to be within, self-contained, everything that the company needed was inside the company. And that was also motivating for the people who worked there because they felt it was in everyone's interest, that they had a common interest. So creatively and in business sense, they were one team, one family. And that was a very powerful force. And actually, I believe that's something that bears some relevance to today, that if you have that self-sufficiency, that determination, and you're working to a common goal, it can be very powerful.
C'était en effet une histoire de famille Motown parce que Berry Gordy voulait que son label soit autogéré en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin de faire appel à des gens extérieurs, que tout soit fait à la maison, à Détroit. Et Barney, le bras droit de Barry Gordy, Barney Ailes, lui était d'une certaine manière le lien avec l'extérieur, avec les distributeurs, avec les radios. Mais tout devait se faire à l'intérieur de Motown Records. Et donc, il avait créé, d'une certaine manière, une ambiance particulière. Chacun avait compris qu'il y avait un intérêt commun à travailler ensemble pour Motown. Il avait créé une équipe, véritablement, donc une sorte de famille. Et cette puissance-là a fait le succès de Motown dès les premières années. À partir de quel moment le ton change dans les œuvres des artistes Motown? Est-ce que c'est après l'assassinat de Martin Luther King?
Well, it changed America. It changed race relations. It changed a great deal. So yes, I suppose so. And it certainly changed Motown because, you know, they had just moved downtown, in fact, from the original building and headquarters in West Grand, and they moved downtown into a skyscraper, which is when the family sense of Motown began to change and dissipate. You know, they were incredibly successful. They were becoming one of the biggest music businesses in America. So change was going to happen. But when that larger change, the cultural and civil rights change happened, it was more difficult for Motown. It required them to think about being more than simply a music company. And that was quite hard for them because, as I said before, Barry was interested in business and music. He wasn't necessarily interested in being a leader for civil rights.
Disons-le, l'assassinat de Martin Luther King n'a pas seulement changé le ton de Motown, ça a changé l'Amérique tout entière, ça a changé les relations entre les personnes. Mais il est vrai que Motown a été impacté par cet événement majeur. Et puis, il faut se souvenir que Motown a déménagé à ce moment-là, a quitté le siège originel de Hitsville, USA, pour downtown, c'est-à-dire dans le sud de la ville. Ils se sont installés dans un gratte-ciel. Donc le côté familial a un petit peu disparu. On est rentré dans une ère où Motown devenait véritablement une compagnie importante. Et même si il y avait des troubles dans la ville et dans le pays, Barry Gordy essayait de maintenir justement ce label. Mais il essayait toujours de conserver la musique de Motown, son appétit pour le business de la musique. Elle ne voulait pas devenir un leader, quelqu'un qui défendait la cause noire particulièrement. Donc c'est vrai que c'est une période assez particulière pour Motown. C'est le passage, d'une certaine manière, à l'âge adulte. Quel serait pour vous le titre emblématique de ce changement de ton des artistes Motown?
Well, there were a couple of things. I mean, firstly, Motown set up a label, a spoken word label, to reflect some of the changes that were happening politically. And there was, indeed, there was a Martin Luther King album released then, Why I Opposed the War in Vietnam. There was a Stokely Carmichael album. There was Langston Hughes. I mean, Motown and Barry understood the times were changing. He wasn't necessarily looking to lead that, but he recognized that Motown needed to reflect it. But to go back to your earlier question, which I didn't answer, yes, Motown grew up at that point, but it took them a minute to understand what was happening and how to respond. And in the event, it was the artists who led them into that new era. It was the artists that taught them how to be adults, in particularly Stevie Wonder and Marvin Gaye.
Avant que je ne vous réponde concernant les artistes, je voudrais dire une chose, c'est que à l'époque, Berry Gordy éditait aussi des disques de discours, des spoken words, et il avait édité des discours de Martin Luther King qui s'opposait à la guerre du Vietnam, il avait édité des discours de Stokely Carmichael ou de Langston Hughes. Donc il comprenait petit à petit qu'il fallait refléter la société. Et il a fallu, d'une certaine manière, qu'il se force un peu à épouser l'humeur de l'époque. C'est en fait les artistes qui l'ont poussé à changer et à se rendre compte qu'il se passait quelque chose dans le pays et qu'il fallait absolument qu'il témoigne de cela à travers ses productions. Et on peut dire que Stevie Wonder et Marvin Gaye ont été les fers de lance de cette contestation naissante aux États-Unis. Écoutons le porte-drapeau de la contestation soul chez Motown en 1971, What's Going On, Marvin Gaye.
There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
What's Going On, Marvin Gaye en 1971. Adam White, dans ce très beau livre que vous nous présentez aujourd'hui, vous vous intéressez principalement aux années 60 et 70. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Il n'y a pas d'anniversaire particulier, chacun de nous connaît désormais l'épopée de ce label historique. Qu'aviez-vous de plus à raconter?
You're right, there's not a lot left to know because there have been more than 50 books written about Motown and its artists. What I wanted to do, both with the images in the book and with the story, is tell what I call the tale of the backroom believers. I think the people who helped Berry build the business have not necessarily been acknowledged, and I wanted to add to the sum of knowledge about Motown rather than repeat what we already know. So it's the story of some of those people and why they were important and how they were important. You know, people like Barney Ellis, obviously, and the team he built, guys like Irv Beagle and Phil Jones and Gordon Prince and Miller London, as well as some of the others, Berry's lawyer, George Schiffer, Esther Edwards, who his sister, who eventually brought about the Motown Museum. So I think some of those stories, what I wanted to tell, and let them get some credit for what was accomplished.
En effet, il y a au moins une cinquantaine de livres qui existent actuellement sur Motown, mais moi ce que je voulais apporter déjà, c'est des images absolument incroyables et parfois inédites que l'on trouve dans ce livre. Et puis je voulais raconter l'histoire de tous ceux dont on ne parle jamais, qui ont cru en Berry Gordy et en Motown. Des gens qui ont travaillé dans l'ombre, je pense évidemment à Barney Hayless, mais on pourrait parler aussi de Gordon Prince, de Phil Jones, de George Schiffer, qui était l'avocat de Berry Gordy. On pourrait parler aussi de la sœur de Berry Gordy, qui a permis la création du musée Motown. Donc on pourrait parler de tous ces gens-là, et ils sont dans ce livre. Si vous voulez connaître l'histoire de Motown de l'intérieur, il faut justement lire ce livre paru aux édition textuelle, parce que ça permet justement de prendre conscience de l'importance de toute une équipe, toute une famille qui a permis le succès de Motown. Est-ce qu'il est possible d'imaginer un festival Motown dans l'avenir comme il y avait les Motown Review dans les années 60?
Well, no, not you couldn't afford it. You or I couldn't afford it, and not too many promoters were could afford it either. If you think about the magnitude of those stars and the careers that Berry gave them and the value of those artists. And they're still performing. You know, yeah. Stevie is out there. Yeah. Diana is out there. It is remarkable how some of those careers continue. So it would be tough. It would be a very expensive package, Bill.
Je pense que ce serait totalement impossible, ce serait bien trop cher. Parce que réunir des gens comme Diana Ross, Smokey Robinson, Stevie Wonder, Lionel Richie ou Martha Reeves ensemble, c'est absolument impossible. Ça serait, imaginez, ce sont maintenant des stars internationales, donc le cachet serait énorme. Et je pense qu'aucun promoteur n'essaierait de se lancer dans une telle aventure. Adam White, cette émission est trop courte pour évoquer toute l'aventure Motown. J'aimerais donc que vous choisissiez le dernier titre que nous allons écouter.
Well, you know that's an impossible task.
Yes, I know.
I mean, it's not something that one can do. Okay, so if you hold a gun to my head, it has to be the Four Tops.
Yes.
Because the first time I saw them in London in 1966, actually 50 years ago on November the 13th, wow. was the most remarkable show. I'd never seen anything like it. The energy, the drive, the depth and soul of Levi Stubbs' voice. So it has to be the Four Tops. And if you're going to talk the Tops, you have to talk, reach out. I'll be there.
Alors, c'est une question que vous me posez là qui est absolument incroyable parce que je ne peux pas y répondre. Imaginez choisir un titre parmi tout le catalogue de Motown, c'est impossible. Alors, si vous me mettez un revolver sur la tempe, je vais peut-être faire un effort. Non, je dirais sérieusement que je choisirais les Four Tops pour une bonne raison. C'est que le 13 novembre 1966, je les ai vus en concert et c'était il y a justement 50 ans. Donc, c'est un bel anniversaire et je me souviens de la profondeur, de la densité de ce groupe-là sur scène. C'était quelque chose absolument incroyable. Et évidemment, s'il faut passer un tube, ça sera Reach Out, I'll Be There. I'll Be There, les Four Tops, choisis par Adam White, auteur d'un très bel ouvrage pétri d'informations et de photos, parfois inédites, sobrement intitulé Motown, paru aux éditions textuelles. Où avez-vous trouvé toutes ces photos?
Oh, various places. Some I had, many of them from Barney's own collection, and from, you know, some private collections and from photo agencies. I mean, there's a pretty remarkable cache of pictures out there, but we were proud that many have not been seen before. And the other thing is, even the shots you have seen before, the artists look so stylish, so fantastic. The color, the suits, the Temptations in the suit,
yeah.
The Jackson 5 on the beach. I mean, those images speak 1,000 words. Who needs words? Just look at those pictures and listen to that music.
Alors, les photos proviennent certaines de la collection personnelle de Barney Ailes, le bras droit de Berry Gordy. D'autres sont des photos privées d'artistes, évidemment des agences qui nous ont fourni quelques photos. Beaucoup sont inédites et ça, c'est un vrai plaisir de les proposer aujourd'hui. Et puis, ce qui est un plaisir également, c'est de montrer ces photos avec ses habits multicolores, quand vous regardez les Temptations ou même les Jackson 5 sur la plage, la manière dont ils sont vêtus, la manière dont ils sont habillés, avec toutes ces couleurs, c'est vraiment une époque et un style particulier qui est vraiment agréable à voir. Merci mille fois Adam White d'être venu nous conter l'épopée Motown.
Joe, you're welcome. Thank you for inviting. Hope you, your listeners enjoy the book and most of all the sound and soul of Young America.
Nathalie Laporte, qui réalisait cette émission, aimerait bien rajouter Michael Jackson en solo à notre playlist du jour, mais il est l'heure de nous quitter. Je vous renvoie donc sur Deezer pour écouter les titres des artistes Motown que nous avons dû écarter, faute de temps. Une dernière recommandation avant de se quitter, le Mona Bismarck American Center proposera samedi prochain, 12 novembre, un bel événement présenté par Jean-Paul Good et consacré à la fameuse émission de télévision américaine The Soul Train, qui a accueilli toutes les stars de la soul music à partir d'octobre 1971 et pendant 35 ans. Rendez-vous de 14h à 18h au 34 avenue de New York à Paris dans le 16e, donc samedi 12 novembre prochain. Et je ne saurais vous saluer sans évoquer un festival dont nous sommes friands. Il s'agit de Blues sur scène. La 18e édition commence ce week-end dans les Yvelines au sud de Paris avec en tête d'affiche Gregory Porter et Salif Keita. Blues sur scène, c'est jusqu'au 19 novembre. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.